Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h32, on a deux petites minutes de retard. Vous êtes les bienvenus pour ce numéro d'avril 2025, le grand jury de la presse immobilière entouré de nos journalistes experts de la presse économique et immobilière. Vous le savez, c'est d'usage dans notre grand rendez-vous. Nous recevons chaque mois une personne que l'on met à l'honneur, qui passe un petit peu sur le grill, hein, en reprenant le mot de notre invité dans son poste sur LinkedIn tout à l'heure, avec nos journalistes et on est très heureux d'accueillir un monsieur, un grand monsieur de l'immobilier qui a été président de la Française, qui est maintenant le patron de la Société des Nouveaux Patrimoines. Il est avec nous, c'est Xavier Lépine. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, on va essayer de passer un moment avec vous. On est en direct sur Radio Immo. Et bien sûr, si vous loupez l'émission, ne craignez rien. Elle est immédiatement en podcast sur tous les agrégateurs. Et en tout cas, merci. Vous pouvez aussi également nous écrire, commenter. Ils arrivent ici, on vous répondra en direct. Entouré de nos invités du jour, elle est de retour. Enfin, on l'attendait. Voilà, elle a été débordée, il faut dire, ces derniers temps. Elle écrit beaucoup. Elle est journaliste chez Challenge, une experte en immobilier. Bonsoir Virginie Grelot.
Bonsoir.
Quel plaisir de vous voir.
Mais c'est gentil, plaisir partagé.
Et vous rappelez, on a démarré ensemble ce grand jury il y a quelques années. Voilà, vous avez été les fondatrices avec notre amie Isabelle Ray-Lefebvre qui est
Bonsoir.
Avec nous. Comment ça va, Isa?
Très bien.
Moi, je suis ravie de vous voir.
Ben moi aussi.
Présidente élue de l'AGIBAT.
Élue.
Voilà, j'ai reçu mon bulletin de cotisation, faut juste que je le remplisse. Et que
Très bien, je vous invite à le faire.
D'ailleurs, il y a une visite qui est prévue hein, bientôt, j'ai vu.
Il y a plusieurs visites, voilà. Il y a un petit déjeuner sur le PLU bioclimatique de Paris, il y a plein de choses prévues.
Alors, je ne peux pas louper ça. Voilà, essayiste, économiste, auteur, et pendant très longtemps, journaliste immobilière dans le journal Le Monde. Merci Isabelle d'être toujours fidèle au rendez-vous. Voilà, on ne pourrait pas faire cette émission sans lui également, une plume acérée, journaliste au Point, il connaît bien, très bien le métier. Grâce à lui, on découvre de très beaux monuments, de très belles œuvres architecturales chaque mois. Bonsoir Bruno Monnier-Vinard.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Comment ça va mon Bruno?
Parfait.
Voilà. Mieux, ce serait de la gourmandise.
Non, ça va bien.
Voilà. Et merci également, puisque grâce à vous, j'ai l'occasion de participer à la rédaction du Point dans les portraits. Quelquefois, d'ailleurs on en a bientôt, qui est prévu pour la mi-mai, n'est-ce pas?
Le prochain dossier immobilier résidentiel du Point est prévu pour le 6 juin, je crois.
Le 6 juin, et je vais avoir le plaisir de faire le portrait de Thierry Laroupon.
Voilà.
Voilà, de BNP, le président de BNP Paribas Real Estate. Et oui, monsieur, merci monsieur Monnier-Vinard de me laisser la possibilité d'écrire dans le Point. Voilà, quelqu'un qui a été rédacteur en chef sur Radio Immo, puisqu'il a participé au développement de notre média. Ensuite, il était appelé sur d'autres missions, il sévit toujours autant à la radio. Il est d'ailleurs l'auteur du podcast tous les jours sur Immo Week. Bonsoir Eric Alla.
Bonsoir Sylvain.
Quel Merci. Plaisir de revoir.
Bah, c'est un plaisir partagé, vraiment.
Voilà. Maintenant, vous êtes déjà chez vous, maintenant vous retournez chez vous. Voilà, et donc ça nous fait très plaisir avec l'équipe, bien entendu, que vous soyez là. Alors là aussi, on ne va pas bouder notre plaisir, puisqu'on est ravis de le rendre. Il faut dire qu'on a démarré ensemble à la fois l'entrepreneuriat avec Bien Ici, mais également Web Radio Audition. Il a été l'auteur des premières chroniques, vous vous rappelez, des bulletins météo et des éditos de l'immobilier dans le grand jury. Il nous a permis d'ailleurs de le faire, parce que sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Il est le président de Bien Ici. Bonsoir David Benbassin.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous allez d'ailleurs vous y coller, puisqu'habituellement on a notre ami Régis Séville.
Oui, l'expert.
Monsieur Data de Bien Ici. Et là, avec votre voix légendaire de la radio, vous allez vous y coller, puisqu'il est en vacances. On lui fait un petit clin d'œil d'ailleurs, ainsi qu'à notre ami Philippe de Lignyville, qui est d'ailleurs aussi également en vacances. Voilà, au sommaire de l'émission La Météo, donc de l'IMO, qui sera présentée, s'il vous plaît, par notre ami David Benbassa. La revue de presse, ensuite, de nos journalistes, vous savez, chaque mois, on fait coup de cœur, coup de gueule, et vous avez chacun un petit peu, voilà, des choses à nous dire. Et enfin, on entamera le grand débat, où d'ailleurs, vous pouvez participer dès le début, si vous le souhaitez, avec à vous, Xavier Lépine, et puis bravo, puisque maintenant, votre produit qui va relancer le marché du logement est éligible au PTZ. Alors là, c'est un combat digne d'être mené. Bravo, quelle noble cause. Merci. Et d'ailleurs, on va bien sûr beaucoup le développer. Voilà, c'est parti pour la météo de l'IMO.
La météo de l'IMO. par Bien Ici.
Voilà, David Benbassa, on est ravis de vous avoir sur notre plateau. Cette chronique, vous savez, chaque mois, elle est dédiée au marché de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler, si vous voulez bien, des signaux de reprise qui sont là, qui sont encourageants, avec un focus sur la publication du dernier Stat Ici, oui. Hein, qui est votre baromètre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le début de l'année 2025?
Ben déjà, c'est que ça change un peu et que oui, il y a des signaux positifs. Hein. Je vais plus parler de 2023, une année de crise. 2024, maintenant, on peut peut-être la considérer comme une année de transition avec un premier semestre pas terrible du tout, un deuxième semestre un petit peu mieux. Et puis là, depuis, je dirais, ces trois derniers mois, il y a des signes encourageants, des signes positifs. Un signe positif amorcé déjà par la baisse des taux, évidemment, ça aide. On parle plus des 4,5 qu'on pouvait avoir en 2023. Là, on est, j'ai regardé à moins de 3 potentiellement sur certains bons dossiers. Donc, c'est déjà un premier élément. Cette baisse des taux a été aussi conjuguée maintenant avec une baisse des prix. Alors, ça a beaucoup baissé. Là, ça s'est stabilisé. Il faut quand même être honnête. Mais ces deux phénomènes, évidemment, ce sont des conditions beaucoup plus favorables pour un retour des acheteurs, des acquéreurs dans les agences immobilières. Et ça, on peut évidemment s'en réjouir. Et évidemment, nous, on voit ce retour sur Bien Ici avec des records d'audience. Ça a démarré en septembre 24, mais là, depuis ce premier trimestre, janvier, février, mars, des audiences qui augmentent et un record d'audience en mars 2025 après
plus de 19 millions.
Ouais, 19 millions et demi quasiment de visites. C'est un record qu'on n'a jamais eu. Donc ça veut bien dire que voilà, là, les acquéreurs sont là, les investisseurs reviennent, en tout cas, redémarrent leur recherche.
Alors, on le sait, sur notre radio, on parle vrai, on parle direct. On sait que le marché du neuf est quand même très problématique. Il a beaucoup souffert, ça fait déjà plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec la lunette vue de Bien Ici?
Alors de la même façon, alors je vais pas être aussi enthousiasmé, mais par contre si on regarde la demande, elle a également évolué de manière positive puisque les demandes de biens neufs ont augmenté de 24% si on regarde ce trimestre 2025, ce premier trimestre versus le premier trimestre 2024. Donc c'est quand même une bonne tendance. Alors c'est une situation qu'on n'avait pas connue nous depuis 2 ans.
Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même. C'est quoi, c'est les acheteurs qui reviennent?
En tout cas les demandeurs, les acheteurs reviennent, ça c'est sûr. Est-ce que le PTZ, vous en parliez il y a 2 secondes? Est un élément aussi incitatif, le fait qu'il n'y a plus de zonage revienne. Donc démarrage 1er avril, ça a démarré un petit peu plus tôt chez nous sur la demande. Donc voilà, on va espérer que ça continue dans ce sens-là.
Alors on parlera tout à l'heure d'ailleurs des faits un peu exogènes et aussi géopolitiques, parce qu'on a vu par exemple que les récentes annonces de Donald Trump ont eu un effet à la baisse de l'OAT, ce qui est incroyable, parce qu'il y a eu un effet corollaire. On a vu une variation de l'ordre de 0,2 points, parce qu'on était passé de 3,5 à 3,30, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans une autre émission. Est-ce que on peut dire que conjuguer tout cela, tous ces phénomènes, c'est quoi? C'est des signaux de reprise pour 2025? Tout va bien?
Alors, tout va bien. En tout cas, c'est des signaux de reprise.
On a une conjonction de signaux.
Sur le marché de la transaction, on vient d'en parler, ça va plutôt bien. Sur le marché du neuf, bon, c'est pas toujours la fête, mais on voit les acquéreurs qui commencent à revenir. Il y a une seule ombre au tableau encore pour moi, c'est le marché de la location. Hein. Donc ça, c'est une tension.
Ça s'arrange pas. Hein.
Ça s'arrange pas. Une tension extrême. On voit que l'offre de biens à louer, puisque c'est ça qu'on peut regarder chez nous, elle a baissé encore de 12,5% par rapport au premier trimestre 2024. Donc, c'est une offre de biens à louer qui baisse. C'est le stock le plus bas depuis les 5 dernières années. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, il y a les stocks de biens avec un DPEG, évidemment, qui sont sortis. Mais ça ne fait que baisser. Donc, ça, c'est un élément quand même tout à fait inquiétant. Et en parallèle, la demande, quant à elle, ne fait que croître. Et elle a augmenté de 10%. Donc, il y a 10% finalement de volume de contact en plus sur ce premier trimestre 2025. Donc la conséquence, c'est que la hausse moyenne des loyers qui a atteint, on le voit nous dans les annonces diffusées, 3,4% de hausse en moyenne sur les 12 derniers mois dans l'Hexagone. Donc baisse de l'offre, augmentation de la demande,
Moi je trouve ça dramatique parce qu'on parle de dizaines de milliers de personnes complètement sur le carreau, quid des étudiants qui arrivent pour leurs études, quid des jeunes actifs qui ne trouvent pas à louer, sans compter qu'effectivement, avec le climat parpaing morose, les personnes justement ne sortent pas du marché locatif.
Exactement.
Et donc il faut espérer, parce qu'on est d'accord qu'il y a un corollaire, en sortir du marché locatif et aller vers l'accession, ça permet de remettre des biens...
Et puis un volume de biens neufs qui ne vient pas sur le marché, donc des investisseurs qui sont moins là en investissement locatif. Donc voilà, le marché se grippe, c'est une conséquence de tout ça.
C'est clair. David, si vous voulez bien, je voudrais qu'on entre un peu plus dans le détail sur le marché de la transaction.
Oui, on peut déjà parler de la demande. Donc la demande sur Bien Ici, on a constaté qu'elle avait augmenté de 13,9%. Donc ça, c'est en termes de volume de contact, donc de demande, par rapport au premier trimestre 2024. Si on regarde un peu plus loin sur les 12 derniers mois, c'est une évolution qui est 4 fois plus forte pour les appartements que pour les maisons. Ça, c'est des signes intéressants. Hein. Donc, la demande est là, mais elle se reporte en fait beaucoup sur les appartements. Sinon, l'audience pour nous, enfin, le volume de demande est important, je l'ai dit tout à l'heure.
Incroyable, hein. 56 millions de visiteurs en 2024.
Ouais.
Vous avez eu.
Sur le premier trimestre. Voilà. C'est des visites sur le premier trimestre. C'est la demande est là, c'est assez impressionnant. Et ce que l'on contacte, ce que l'on constate aussi, c'est beaucoup plus français comme ça, c'est que le nombre de contacts par annonce a aussi excessivement augmenté. Ça, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a de l'offre, la demande augmente, mais aussi le nombre de contacts par annonce.
Alors justement, offre, ça donne quoi côté offre ?
Côté offre, pour le coup, on est en léger recul de 2,7% sur les 12 derniers mois. Mais c'est assez logique, hein. On avait largement augmenté le volume d'offres, le marché était grippé.
Bien sûr,
donc là,
logique.
Ça baisse un petit peu. J'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus.
Mais
ça veut dire que concrétise.
Oui, oui.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dans le détail, on observe que l'offre recule plus sur les appartements. Donc c'est un corollaire à ce que je viens de dire juste avant sur la demande. Donc le volume d'appartements est plutôt en baisse, alors que les maisons, elles, se stabilisent. On est à plus 0,6% sur les 12 derniers mois.
Alors si je vous suis bien, j'imagine que le temps de diffusion des offres s'améliore et que donc du coup, rotation, les biens partent plus vite dans les délais, dans les jours.
Alors évidemment, hein, ce dynamisme, on l'observe aussi sur le délai de diffusion. Donc nous, c'est ce que l'on observe. Hein. Donc de là à se dire que ça se vend plus vite, j'espère. En tout cas, ce que l'on retrouve, c'est que ce temps moyen de diffusion a baissé de 7 jours par rapport au dernier trimestre 2024, donc le premier trimestre 2025, au niveau national, on se positionne aujourd'hui à un délai d'un peu moins de 3 mois, délai de diffusion, 83 jours.
Ah oui, quand même, d'accord. Et enfin, et côté prix, est-ce qu'on mesure les incidences ou est-ce qu'on repart un peu à la hausse ?
Alors on l'a dit, hein, les prix ont baissé l'année dernière, mais cette baisse a tendance quand même à se ralentir en début d'année, il faut être honnête, dans ce que l'on peut voir nous. Mais il y a comme d'habitude une disparité, évidemment, selon les typologies, mais surtout sur les régions. Ça, c'est important à noter. Si je regarde, je vous ai fait un petit top et un petit flop. Sur le top 10 des villes dont le prix médian a le plus augmenté, si je prends quelques villes dans le top 10, on voit Salon de Provence, plus 51%.
Wow.
C'est quand même énorme.
Mais
wow. C'est le soleil. Je ne sais pas. Malakoff, on repart dans le nord, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, c'est plus 33%. Donc sur la diffusion. Hein.
Tourcoing,
plus 30%. Absolument.
Et Douai
ferme le bal, là, pour le coup, avec 26% de hausse, mais c'est quand même pas mal. Et si on regarde de l'autre côté, à l'inverse, le top 10 des villes dont le prix médian a le plus baissé, comme quoi on parlait de Tourcoing, là, c'est Wattrelos, qui est à moins 34%.
Et pourtant, c'est pas si loin que Tourcoing.
Non, c'est pas si loin. Lens, moins 23%. Noisy-le-Sec, moins 15%. Et ferme la marche, Quimper, avec moins 13%.
Voilà,
donc globalement, les villes les plus chères ne changent pas beaucoup, hein. Ça c'est une réalité, alors que les villes les moins chères, elles font le grand écart avec des prix moyens au mètre carré qui peuvent aller en dessous de 1000 euros.
Donc il
y a des grands écarts.
Alors donc un T1 2025 est quand même assez favorable.
Oui, beaucoup plus favorable aux acquéreurs.
C'est
avec
pas la méthode
Coué,
hein. Il y a vraiment des indicateurs.
Non, non, si les taux restent là, c'est plutôt pas mal. Et puis on va arriver dans un marché, effectivement printanier, où les gens vont commencer à préparer la rentrée, donc augmenter le nombre de recherches, on l'a vu.
Bien sûr.
Et essayer de concrétiser leurs projets.
Il faut juste espérer qu'on essaie de récolter les signaux pour le marché locatif, qui est un vrai sujet. Un petit commentaire rapide sur ce que vient de nous dire David Benbessa. Xavier Lépine.
Bon, des signaux, moi je dirais les hirondelles font pas le printemps. Je veux dire, cette crise immobilière, elle est profonde, elle est pas vraiment nouvelle, elle a été dissimulée en fait par la baisse des taux. Moi ce que je constate quand même, c'est que sur les 15 dernières années, on en a eu 12 avec des taux d'intérêt extrêmement attractifs et que ça n'a pas changé le pourcentage de nombre de propriétaires. Mais pas d'un iota. En fait, il n'y a pas plus de gens qui sont devenus propriétaires quand les taux étaient à 4 ou quand ils étaient à 1. Donc il y a un véritable problème d'accès à la propriété dans ce pays. Donc on a dissimulé ça finalement par des subventions sur l'investissement locatif par les personnes privées. Et puis quand on retire, comme aurait dit l'ancien président de la Fed, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il n'avait pas de maillot.
Ça, cette dernière phrase, elle avait été prononcée ici, sur ce studio. C'était Laurent Vimon qui l'avait prononcée. Merci pour ce commentaire, ça augure plutôt bien de notre débat. Mais tout avant, on va faire un exercice qu'on aime bien ici à la rédaction. Vous pouvez d'ailleurs aussi également réagir. C'est la partie pour la revue du grand jury.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Voilà, la revue du Grand Jury qui est chaque mois sur le plateau avec nos amis journalistes. Je vais vous laisser aller retourner en régie, notre ami David Benbassa qui va laisser la place à Bérénice de Villefleurieu. Merci David. Voilà, Bérénice de Villefleurieu, rédactrice en chef de Radio Immo. Comment ça va, Bérénice?
Eh bien, écoutez, ça va, en voilà. Pleine forme, et vous?
Eh bien, écoutez, mieux ce serait de la gourmandise.
Ouais, ah, voilà. J'aime quand vous dites ça.
Résolument positif. On va commencer par vous, Éric Callat, parce qu'on se dit, mon cher Xavier, chaque mois, on dit à nos journalistes, voilà, un coup de gueule, un coup de cœur, ou les deux en même temps, peu importe. Alors, on a quand même quelques habitués, comme notre ami Bruno, qui nous fait, qui est parti comme ça du principe qu'il allait nous faire découvrir l'architecture. Mais Éric, vous avez un coup de cœur et coup de gueule sur la proposition de loi du sénateur communiste Yann Brossat, encore lui, sur le co-living.
C'est ça, je suis pas arrivé à me décider en fait si c'était un coup de cœur.
Oui, j'ai vu, hein, c'était...
Ouais.
C'était...
Alors, je me suis dit peut-être en discutant avec tout le monde ici... Ah,
comme on dit sur Canal,
trancher,
bien, mais... pas bien.
Ouais, ah, voilà. Alors coup de gueule, effectivement, par rapport au projet de loi du sénateur communiste de Paris, donc Yann Brossat, sur le co-living.
Alors notamment. Qu'est-ce qu'il dit sur le co-living?
Alors, il dit beaucoup de choses. Il dit par exemple que pour lui, le problème du co-living, c'est qu'il permet aux investisseurs de s'affranchir totalement de l'encadrement des loyers, par exemple, que certains appartements sont découpés en logements de 10 mètres carrés loués à 1000 euros par mois. Plus un logement est petit, plus il est cher au mètre carré. Plus un logement est grand, plus un investisseur aura tendance à le diviser pour avoir une rentabilité maximale. Ça, c'est voilà. C'est ce qu'il nous dit. C'est pas faux. Voilà, le co-living est à la mode à Paris et dans la région. Il permet effectivement de se loger et de partager des parties communes avec d'autres personnes. Et le prix des loyers, donc selon Yann Brossat, pose vraiment question. Il rendrait difficile l'accès à de grands logements, notamment pour les familles nombreuses. Alors... Coup de gueule, je disais, parce que dans la situation actuelle du logement, on vient de le voir avec ce que nous a dit David Benbassa, est-ce qu'on peut se passer du co-living, qui a quand même le mérite d'être aussi une solution pertinente pour les jeunes étudiants. Vous les évoquiez, Sylvain, en début d'émission, qui sont quand même actuellement en manque cruel de logement. Et coup de cœur, oui, parce qu'effectivement, quand même, dans un contexte que l'on connaît aujourd'hui, bah, une législation s'impose pour éviter les dérives qui peuvent être celles de plusieurs investisseurs, notamment.
Ça peut s'expliquer, mais ça sera de nature d'ailleurs à alimenter notre débat, si vous voulez bien.
Voilà, l'avis de Xavier Lépine sur le sujet peut être intéressant également.
On lui posera d'ailleurs la question. On enchaîne, ce que je voudrais qu'on laisse une large place au débat. Avec vous, Isabelle, coup de cœur, je partage avec la loi Lemeur.
Oui, alors
Anaïs Lemeur, qui est députée du Finistère et qui habite à Quimper, hein, voilà, donc et qui est présidente également désignée, nommée depuis septembre dernier du Conseil national de l'habitat, puisqu'elle succède à Lionel Causse. Et vous avez également un coup de gueule sur la métropole du Grand Paris.
Oui. Alors, coup de cœur parce que j'ai lu dans Le Monde un article qui s'intitule « La fin de l'âge d'or des Airbnb dans certaines villes de France ». Bon, vous savez, les titres sont toujours un petit peu dopés par rapport au contenu.
On a même vu des images avec la loi Lemeur a tué l'immobilier saisonnier,
alors,
etc.
Voilà. Dans plusieurs villes comme Paris, Biarritz ou Saint-Malo, les politiques restrictives et de régulation du Airbnb, qui ne sont pas que la loi Lemeur, qui était déjà un petit peu avant, mais que la loi Lemeur conforte.
On va plutôt parler de l'immobilier saisonnier, on va arrêter de citer Airbnb tout le temps, quoi.
Oui, alors Airbnb, c'est devenu un mot générique, si vous voulez.
Non, parce qu'il y a Booking, il y a Abritel, il y a beaucoup
non, mais
de plateformes.
Bien sûr, mais c'est comme mais Frigidaire.
C'est la plus connue.
C'est comme Frigidaire, ça devient un mot... Oui.
Un nom commun.
J'ai compris. Un nom commun. Oui, absolument.
Et donc, comme le Sopalin, voilà. Dans ces villes qui ont adopté des politiques assez restrictives et qui demandent, si vous avez une résidence secondaire et que vous la mettez sur ces plateformes touristiques, de compenser les mètres carrés logements perdus. Donc, ce sont des politiques très restrictives. On constate un reflux, quand même, des annonces de location touristique. Et. Un petit mouvement vers la location
longue durée
ou, comme ils disent à Biarritz, des baux mixtes, c'est-à-dire des baux de 650 baux ont été signés en 2024, des baux de 9 mois meublés pour les étudiants et après pour l'été touristique. Donc ce n'est pas vraiment de la longue durée, mais ce n'est quand même pas la semaine. À Paris aussi, reflux de 79 000 annonces à 62 000, ça reste quand même très élevé. Saint-Malo qui a mis en place des quotas.
Ah oui, Saint-Malo.
des quotas, parce que 30% des biens dans la ville intramuros étaient destinés à la location touristique et pas aux habitants. Là aussi, constate un petit mouvement. Donc, pour faire suite au problème du locatif privé, ça, quand même, on retrouve une toute petite offre. Enfin, rien n'est gagné, la bataille n'est pas gagnée, on voit quand même un mouvement.
On va développer tout cela. Coup de gueule sur la métropole du Grand Paris ?
Oui, pourquoi ? Alors, oui, la métropole du Grand Paris, c'est un peu un ovni institutionnel qui regroupe Paris.
Présidé par Patrick Ollier.
Qui regroupe Paris et les 131 communes des trois départements dits de la Petite Couronne, devait adopter en 2018 un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement pour dire qui devait faire quoi, quelles communes devaient construire du logement social, etc. Évidemment, les maires ne se précipitent pas là-dessus, d'autant plus que la loi, une loi NOTRe, prévoit que lorsque ce plan sera adopté, un certain nombre de compétences seront transférées à la métropole, ce qui là non plus ne réjouit pas les maires. Donc, ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est en carafe depuis maintenant longtemps. Il a été relancé. On attend peut-être quelque chose pour 2026, mais on sent bien qu'il y a des tensions très fortes entre les politiques locales de l'habitat et qu'ils ont du mal à se mettre d'accord. Et d'une certaine manière, je comprends les maires qui ne veulent pas se délester, se dépouiller de leurs compétences. Juste un chiffre sur les attributions de logements HLM. L'ANCOLS, qui est la Cour des comptes du logement social, vient de publier des chiffres. Il y a eu, en 2024, 384 000 attributions de HLM. C'est 100 000 de moins qu'en 2016. Ça veut dire que 100 000 ménages par an ne peuvent pas intégrer au logement social, alors que la demande augmente et augmente.
Bien sûr.
Donc, on parlait du marché locatif privé qui est en grande difficulté. Le marché, le parc social est hyper saturé. Maintenant, il faut plus de 10 ans d'attente pour obtenir un logement social.
On va développer justement cette notion, parce que on est bien dans le constat, et d'ailleurs Xavier Lépine a un avis très précis là-dessus, on peut ne pas être d'accord, et justement c'est l'objet du débat. On va passer à vous, Bruno Bonnier-Vinard, on va parler du Saxe Hôtel, qui est installé dans le 16e arrondissement, d'ailleurs on a quelques images à montrer.
Oui, si vous me permettez juste avant, je veux pas doucher l'enthousiasme d'Isabelle par rapport à Airbnb, mais si on est complet sur l'article du Monde, on voit que ces restrictions de certaines communes, elles favorisent les locations sous le manteau, les locations saisonnières sous le manteau, et elles favorisent aussi un mouvement de résidence secondaire en résidence principale pour avoir les 100 jours auxquels on a droit de location, et après les compléter par des logements étudiants. Donc ça peut avoir aussi quelques effets pervers.
Vous voulez dire qu'en fait la législation contraignante pousse à des dérives parfois
Parce que la contrainte porte sur les résidences secondaires et pas sur les résidences principales.
Et après il faut vérifier si les gens étaient là pendant
c'est très clair. Voilà. On va enchaîner sur le coup de cœur du Saxe Hôtel Paris 7e. On va voir les images. Je crois qu'on a des images.
Oui, je vais vous présenter. Donc, j'ai deux petits coups de cœur. Donc, deux coups de cœur qui ont en commun d'être réalisés à partir du déjà là. Hein, faire du neuf avec du vieux. Le premier, c'est donc dans le 7e arrondissement de Paris, avenue de Saxe, tout près de l'UNESCO. Et en face de l'hôpital Necker, un ancien central téléphonique des années 1900 a été métamorphosé par la compagnie de Salzbourg en un hôtel 5 étoiles du groupe Hilton. C'est un hôtel de la gamme Lifestyle du groupe Hilton. On a gardé la structure d'origine avec notamment une façade en pierre et briques qui est classée. Et on a quand même restructuré tout le bâtiment qui accueille 120 chambres et suites. La particularité de cet hôtel, c'est qu'il a une vue assez phénoménale sur la Tour Eiffel, qu'on voit de bas en haut. Un toit technique qui a été récupéré et qui va laisser place à un rooftop de 350 mètres carrés.
Ils vont faire un rooftop.
Ils ont l'accord, hein, c'est en cours. À l'avant-dernier étage, dernier étage sous le rooftop, il y a un restaurant japonais très branché. Donc l'hôtel, il fait quand même 8000 mètres carrés, il accueille 120 chambres et suites. Il y a un patio qui a été créé, on voit le restaurant japonais, là voilà le patio avec un petit jardin à la française et un jacuzzi, quand il fait chaud on pourra s'y baigner. Autre particularité, c'est un bar à tapas, une grande galerie qui est très instagrammable.
Instagrammable.
Est-ce que vous avez fait des stories?
Qui a un plafond en verre et 200, plus de 200 miroirs qui reflètent les lustres de baccarat qu'on voit.
On reconnaît bien là la patte de la compagnie de Falsbourg en termes de créativité.
C'est très
baccarat
très stark,
qui est tout près.
C'est toujours un plaisir. Vous l'avez visité, vous y êtes allé?
Oui, j'y suis allé. Enfin, j'ai pas dormi, mais j'ai visité le bâtiment. C'est quand même un investissement de 120 millions d'euros. Faut le signaler. Et donc, qui a été fait par Philippe Journeau. Les architectes, c'est le cabinet COS. Il y a Alain-Charles Perrault qui est architecte en chef des monuments historiques pour toute la partie classée.
Et la déco,
c'est l'épouse de Philippe, c'est Karine Journeau qui s'est occupée, qui a fait travailler différents designers. On voyait du Stark tout à l'heure.
On voit bien la patte. Magnifique. Merci.
Je donne pas le prix des chambres.
Voilà.
Bon, c'est un peu extravagant, mais voilà.
Mais oui, il faut avoir les moyens. Mais la vitrine est magnifique. Merci Bruno Magnivinard.
Et juste, je voulais compléter. Oui. Alors, je sais pas si ça a été prévu.
On a un deuxième bien.
En régie, oui. Je voulais vous faire un petit clin d'œil, Sylvain, à Bordeaux, signaler une opération.
Cette
opération à Bordeaux, c'est le centre de formation et d'hébergement des apprentis, enfin des compagnons du Tour de France.
Merci.
Merci pour
l'attention.
120, là aussi, je crois qu'il y en a une centaine de chambres pour les apprentis qui vont être formés là au métier de bouche et du bâtiment.
Moi, c'était les métiers de bouche, effectivement, et c'était les compagnons du devoir du travail.
Voilà.
Et la particularité des deux organisations compagnoniques, c'est qu'il y en a une qui se vouvoie et l'autre qui se tutoie. Je ne sais pas si vous le saviez.
Ah, pas du tout.
Voilà, on a les compagnons du devoir du travail et on a le compagnon de l'union et du devoir de liberté.
Très bien. Voilà. Et donc là, c'est un ancien bâtiment des ascédiques qui date des années 70.
Magnifique.
Et qui a été repris. On a gardé la structure en béton, mais on a paré les façades avec du bois, comme vous l'avez vu.
Bardage bois, oui, on le voit très bien.
Il y a aussi un bâtiment neuf qui a été construit.
Est-ce qu'on est dans Bordeaux, là, Bruno?
Alors, c'est avenue de la Jaillière, mais je ne sais pas où c'est à Bordeaux.
Oui, d'accord.
Hein, je ne suis pas bordelais.
C'est à l'extérieur.
Et je voulais citer juste le cabinet d'architectes, s'appelle Teki Architect, et c'est une opération qui a été faite avec les 3F.
Merci beaucoup, Bruno Magnivinard. Notre super Bérénice. Alors, Bérénice, tu sais que j'ai cru qu'on parlait de la demi-lune, c'était à Tassin. Qu'on a connu, c'est la demi-lune à la Défense.
Oui.
Ça, c'est un coup de cœur.
Voilà, c'est mon coup de cœur, c'est le futur quartier. Allez, j'ai pas de photos, c'est vrai que j'aurais pu vous en donner. J'ai pas de photos, donc voilà. C'est le futur quartier de demi-lune à la Défense, donc qui sera opérationnel, on va dire, qui naîtra en 2031. Les travaux vont commencer en 2027, et en fait, ça va être vraiment une forêt en plein cœur de la Défense. Une forêt avec trois grands immeubles quand même qui comporteront une résidence étudiante, des logements locatifs pour des familles, une halle gourmande, tiens c'est pour vous Sylvain, une salle de spectacle, une salle d'escalade indoor et outdoor, un hôtel, voilà, un centre de formation, des bureaux évidemment, et puis il y aura une agora panoramique. Alors moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, c'est ça va être sur, vous savez, le no man's land routier qui existe actuellement là, qui fait flipper hein, quand on passe. Enfin, c'est horrible, c'est moche, et puis on voit tout ce béton. Enfin voilà, tout ça va être cassé. Ils vont ramener de la terre. Il y a vraiment un écosystème qui va naître. Il y aura un étang. Il y aura plus de 100 arbres qui vont être plantés. Ils vont introduire des espèces. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et je trouve ça génial en fait de revégétaliser, de reperméabiliser le sol et de voir
ça
un
passionne. Vous aviez l'épine, apparemment. Ça vous passionne?
Oui, c'est ICAD, non ?
Bah oui, non, mais c'est, moi je suis passionnée aussi. Et juste, c'est un démonstrateur bas carbone. En fait, parmi les trois immeubles, il y aura un premier immeuble de grande hauteur bas carbone. En fait, le premier immeuble de grande hauteur bas carbone en France. Donc ce sera une première.
Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Alors vous avez un coup de gueule, et là je m'y associe complètement. Les logements insalubres, les vrais.
Ouais.
Ça, c'est une véritable urgence, c'est même une urgence nationale.
Voilà, oui, c'est vrai qu'on s'obstine, enfin, le gouvernement s'obstine avec les logements énergivores. Bon, je ne suis pas climato-sceptique du tout, hein, mais je pense qu'on se trompe de combat. Là, je suis tombée sur un témoignage d'une dame à Lyon qui vit dans un vrai logement insalubre, donc qui est infesté de moisissures. Elle y vit avec sa fille et son petit-fils de 2 ans. Ça fait, elle est arrivée dans cet appartement en 2005. Donc c'est un bailleur social, je ne vais pas dire le nom, mais c'est un bailleur social qui lui loue. Et vraiment, c'est infesté de moisissures du sol au plafond. Elle tousse, donc ça se répercute sur la santé des locataires. Et le problème, c'est que ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il y a des associations qui essayent de l'aider, mais on se rend compte, et donc dans l'article, vraiment, on lit qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a pas mal de cas comme ça. Le problème, c'est le vieillissement du bâti, qui est un réel sujet. Et je pense que voilà, on se trompe de combat. Faut vraiment s'attaquer au logement indécent et pas au logement énergivore.
Ça, c'est dit. Virginie Grolot, qu'est-ce que vous nous avez réservé ? Je n'ai pas encore votre texte, mais la surprise va
arriver. Ça va être beaucoup plus court, mais c'était plus un petit coup de projecteur sur la rénovation de la chambre des notaires. Donc,
Avenue Victoria.
Avenue Victoria, Manicure. Donc en plein centre de Paris, place du Châtelet, qui, donc ce bâtiment a fait l'objet de 2 ans de travaux. Il a été complètement rénové et surtout ouvert sur la ville, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque... le bâtiment date de 1856, je crois, mais au début 1900, il y avait des commerces, en fait, à cet endroit, qui ont été murés, tout simplement, dans les années 60-70. Tout ça a été rénové, nettoyé, etc. Et donc, on a la chambre des notaires est de nouveau, entre guillemets, beaucoup plus accessible. Et c'était plus un petit coup de projecteur là-dessus, parce que je pense que les notaires, c'est encore une profession qui fait peur à beaucoup de gens, alors que ça peut être très utile pour prendre les bonnes décisions concernant un patrimoine familial. Ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi les chambres d'entreprise quand ils montent leur entreprise et qu'ils veulent mettre leur famille à l'abri. Quand c'est des couples non mariés qui, au début, c'est toujours tout joli, tout rose, et c'est pas toujours... la suite est parfois plus compliquée. Donc, il faut pas hésiter à aller voir les notaires, à aller à la chambre des notaires pour se renseigner. Ouais. Il y aura un petit lieu d'exposition qui sera ouvert au public. Donc voilà,
c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs,
Des journalistes qui sont sur tout le territoire.
Ouais. Ah oui, oui.
Je vous emboîte le pas parce que le club
reculé, on trouve un notaire.
Le club notarial et les conférences de presse ont lieu ici, justement. Oui, un club notarial tous les trimestres. C'est vraiment un morceau d'architecture. D'ailleurs, j'ai une statistique pour vous. Quelle est la plus grande cause de divorce en France ?
Le mariage. Non mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est très vrai. Et d'ailleurs, pensez à aller faire un testament chez le notaire. Oui, ça coûte rien du tout. Je crois que c'est même pas 100 euros. Et honnêtement, c'est quand même bien utile.
Moi, c'est fait. Voilà, on l'a fait.
Extrêmement important.
Il faut le faire, absolument.
Voilà, merci, les amis journalistes, pour ces focus. Voilà, place au grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière. Le grand sujet.
Voilà, on va parler de l'accès à la propriété et peut-être une nouvelle façon de concevoir les nouveaux usages, la façon d'aborder le droit de propriété, peut-être différemment. Avec vous, Xavier Lépine, vous êtes le président de la Société des Nouveaux Patrimoines. Votre marque, ça s'appelle Néoproprio. Pendant de nombreuses années, vous avez été le président du directoire d'un groupe important d'investisseurs, c'est La Française. On va parler avec vous de l'accès au logement. Et d'un nouveau modèle d'accession, votre offre Néoproprio qui offre une solution unique qui s'appuie sur l'emphytéo, c'est-à-dire le bail emphytéotique. Est-ce que c'est un leasing immobilier ? Est-ce que c'est une nouvelle voie entre la location et l'achat classique, offre plus accessible que les acquéreurs ? Ça, c'est bien le débat du jour.
D'abord, je vais me permettre de répondre aux différents intervenants.
Point par point.
Parce que finalement, donnez-nous votre réaction, voilà, on aime ça.
Ma réaction par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que finalement, je trouve que notre approche, elle répond bien à toutes les difficultés que vous avez évoquées. Le co-living, c'est bien, on se loge, mais on n'habite pas. Habiter quelque part, c'est construire quelque chose. Se loger, je suis étudiant, j'ai besoin d'une piole. Après, par rapport à ce que vous disiez de Yann-Brossard, bon ben, en fait, tant que Paris se verra uniquement dans le cadre du périphérique, enfin disons à l'intérieur du périphérique, ben, c'est pas la bonne échelle. On voit bien que le problème, il est au niveau du Grand Paris. Donc, tant qu'il y aura des politiques de PLU qui seront au niveau local, ben, vous aurez ce type de situation, parce qu'il faut bien se loger quelque part à un moment donné. Ça, c'est ma réaction. Donc, c'est ni pour ni contre. Je trouve que c'est pointer du doigt, une situation qui est finalement créée par d'autres, et éventuellement par eux-mêmes. Airbnb, bah, New York, ça y est, c'est interdit totalement. Ça s'est traduit par quoi ? Une augmentation des chambres d'hôtel. Pas un seul logement de plus à la location. Pas un seul. Donc, en fait, si on respecte la loi 90 jours, 120 jours, bah oui, il y a des gens, notamment en résidence secondaire, qui ont besoin de cet argent pour payer leurs charges. Donc, ce que ça retire de la location longue durée, il faut vraiment en être convaincu, quoi. Par contre, effectivement, on voit bien que la vertu est toujours au milieu des extrêmes. Si vous dites on peut tout faire parce qu'on est libéral ou libertarien, comme on dit aujourd'hui, bah c'est mauvais. Par contre, en fait, chercher à limiter quelque chose parce qu'on n'arrive pas à traiter un autre problème, ça n'a jamais résolu le problème. Voilà, donc, alors, sur la métropole du Grand Paris, bah, tout le monde se pose en permanence la question, qu'est-ce que c'est ce machin ? On se croirait à l'ONU.
que voulez-vous que je dise ? Vous allez vous faire des amis ce soir, c'est bien.
Mais non, mais la réalité, c'est que c'est quand même la seule entité juridique qui a un certain pouvoir de faire. Vous ne l'avez pas au niveau de la région, vous ne l'avez pas au niveau de l'État. On a concédé à la métropole du Grand Paris bah le fait de pouvoir justement faire ce plan d'habitat et du logement. Donc il faut qu'il
se... Pas fait.
Oui, après, je ne porte pas de jugement sur la... Je dis simplement, c'est la bonne entité juridique. Ensuite, il faut...
La bonne échelle, oui.
C'est la bonne échelle et c'est celle qui a le pouvoir. Non, à charge pour elle de le faire. Sur les logements sociaux, bah oui, effectivement, pourquoi il y a moins de logements sociaux ? Bah parce qu'il y a moins de logements tout court à construire, donc il y a un effet de domino qui joue. Maintenant, le logement social, il est clair qu'il y a des gens qui en auront besoin toute leur vie, mais il est clair aussi que ça devrait pas être le cas de la majorité d'entre eux, ça devrait être un parcours résidentiel. C'est une situation, vous êtes étudiant, vous êtes jeune actif, vous êtes dans le logement social. Il faut effectivement pouvoir sortir du logement social. Et le problème, c'est la durée moyenne de location, c'est plus de 22 ans. Est-ce que ce n'est pas une assignation à résidence ? C'est-à-dire le problème, il est là, il n'est pas il est parce qu'il n'y a pas justement de sortie naturelle. Et c'est un peu ce que nous proposons. L'hôtel de Saxe, j'aime bien, c'est juste à côté du ministère du Travail et du ministère du Logement. C'est quand même un symbole. Quant à Tassin, la demi-lune, celui qui me concerne, c'est celui de Lyon, puisque c'est là où nous faisons nos premières opérations de néo-proprio.
Ben nous sommes, Bérénice et moi, de Lyon. Et pour mémoire, moi j'ai grandi une partie de ma vie à Tassin, la demi-lune, justement.
Voilà.
Et vous faites vos premières opérations, les premières opérations néo-proprio ?
Oui, à Tassin-la-Demi-Lune, avec de Mathieu Barre et Immobilier comme partenaire.
Alors, juste, on va, là, je vois nos journalistes qui trépignent pour vous poser des questions, mais juste en quelques mots, c'est quoi néo-proprio ?
Ben, en fait...
C'est un droit d'usage ?
C'est une nouvelle façon de... c'est beaucoup plus que ça. En fait... on connaît tous être locataire, vous payez un loyer à fonds perdu, ou être propriétaire, et vous êtes totalement chez vous, et vous. Et c'est objectivement, on a besoin de se loger toute sa vie, on a envie de transmettre, c'est l'idéal. Le problème, c'est que c'est un idéal qui n'est plus accessible par plus grand nombre.
C'est clair.
Je dirais que la classe moyenne, aujourd'hui, la définition de la classe moyenne, c'est celle qui n'a pas les moyens. Ce qui est quand même un vrai sujet dans ce pays. C'est un vrai sujet, c'est pas que dans ce pays, mais on a été champion du monde, là, on est vraiment sur le podium.
Virginie, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, on dirait.
Ah si, non, je trouve ça très triste, en fait.
Ouais. Mais c'est vrai, mais parce que, Xavier, la classe moyenne, par définition, était sur le chemin du parcours résidentiel fut une époque.
Vous aviez...
On l'a connu, vous et moi, ça.
Bah, on l'a connu, enfin, on l'a même
très bien connu. Passé.
À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez plus de 80% des gens qui étaient locataires. Et donc, vous aviez 20% de propriétaires. En 1980, vous aviez un Français sur deux qui était propriétaire. Moi, je suis issu de cette génération-là.
C'est ce que vous nous avez raconté, absolument.
Et donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi, je sortais de mes études, qui étaient normales. Et un an après, bah, je pouvais
moi,
acheter...
Je reprends ce que vous disiez la précédente fois. Vous nous avez dit, je suis issu d'une génération bénie.
Bien sûr.
On a tout eu.
Bah, on a tout eu, oui. On n'a pas connu un jour, on n'a pas connu un jour de chômage. On a pu acheter son logement pratiquement un an après être sorti de l'école ou de l'université. Et on pouvait avoir des enfants. Enfin bon, bref, c'était...
Oui, mais
c'était...
maintenant, on a ChatGPT.
C'est pas mal non plus.
Ça donc, tient pas très chaud.
On a une rédactrice en chef qui a beaucoup
d'humour. Comment est-ce qu'on sort de cette situation ? Cette situation, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'elle est enclenchée. Pour tout un tas de raisons. On ne va pas revenir dessus, parce que là, c'est vous avez 4 heures. Donc, en fait, nous, la solution qu'on apporte, c'est pas merveilleux, c'est juste beaucoup, beaucoup mieux que la situation actuelle.
En fait, ça se passe comment, concrètement ?
Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un bail emphytéotique ? C'est quelque chose qui existe depuis...
Oui.
C'est séculaire, multiséculaire, ça fait des siècles que ça existe.
On appelle ça des concessions, ou d'une concession, c'est 99 ans le bail emphytéotique, c'est bien ça ?
C'est de 18 à 99
ans. Voilà, c'est
ça. C'est comme Tintin, mais avec un peu plus long.
D'accord.
et en fait, c'est un droit réel immobilier qui est extrêmement flexible. La seule chose que vous savez, c'est que vous êtes propriétaire pendant une durée qui est prédéfinie. Et être propriétaire, ça veut dire quoi ? Dans le cadre du contrat que nous avons monté, on a tous les atouts de la propriété.
C'est le système anglais, ça ?
C'est le système anglais, mais
C'est la division des attributs de la propriété entre l'usus et le fructus.
Non, ça, c'est l'usufruit. Là, c'est un transfert réel de propriété. Okay. Quand vous acquérez un bail emphytéotique, vous êtes propriétaire.
Pleinement et entièrement.
Pleinement et entièrement.
Abusus et fructus.
Exactement. Et donc, c'est à charge ensuite de définir dans un cadre contractuel, et non pas dans un cadre réglementaire, les modalités de votre contrat. Je ne vais pas revenir sur le droit civil, parce encore 2 heures de plus.
Oui.
Mais fondamentalement, c'est quoi ? Pourquoi vous êtes propriétaire ? Parce que vous êtes chez vous. Parce qu'au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres avec un loyer, vous remboursez un crédit, et parce que vous participez de l'éventuelle hausse de l'immobilier. Ce sont les raisons qui vous amènent à être propriétaire. Être locataire, en pure théorie, c'est beaucoup plus facile. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à louer, puisqu'il n'y a plus personne qui met en location.
Donc, oui, mais en quoi c'est plus facile d'utiliser votre formule ? Parce que ce que vous dites, je reprends les propos, c'est que ça fluidifie, ça donne plus accès à la propriété, ça permet à des personnes qui n'ont pas les apports nécessaires ou les moyens nécessaires de rester sans trop s'éloigner des bassins d'emploi, vous l'avez dit également. Concrètement, comment ça marche ? J'ai un appartement qui est à la vente qui vaut 500 000 euros.
Eh bien, s'il est à la vente par le système néoproprio, vous allez signer chez le notaire ce bail emphytéotique, qui est donc un acte notarié.
Moi, le propriétaire ?
Non, vous qui vous souhaitez acquérir.
Oui, d'accord.
Vous souhaitez acquérir ce bien. Ce bien, il est par exemple produit par deux Mathieu Barre. Aujourd'hui, on le fait sur du neuf.
Ah, c'est valable que sur du neuf.
Aujourd'hui, oui.
D'accord, ok.
On est en train de faire la version, mais j'y viendrai
d'accord.
à la fin. Donc ce bien,
de Mathieu Barre le vend X.
Alors, on va dire 500 000 500 000. Les 500 000 euros, c'est gentil, mais vous avez tout sauf les moyens de pouvoir l'acheter.
Ah oui.
Donc, on va vous le vendre 250 000 euros.
On va le vendre moitié prix.
On va le vendre moitié prix.
Et je vais l'occuper après.
Et vous allez l'occuper. Vous allez payer, rembourser votre crédit sur les 250 000 euros. Donc, ça va vous coûter moitié prix que si vous l'aviez payé 500 000. Vous allez payer une petite redevance en plus au bailleur que je suis. Et vous êtes totalement chez vous pendant 25 ans. Et donc, vous remboursez votre crédit tous les mois. Et puis, dans 10 ans, ou dans 8 ans, ou dans 15 ans, vous souhaitez partir. À ce moment-là, je vous rachète le bail sur le temps qu'il reste. Et vous, au lieu d'avoir payé la même chose qu'un loyer, vous avez remboursé un crédit. Et donc, vous allez partir avec une épargne automatique.
C'est un crédit inversé.
Pardon ?
C'est un crédit inversé. En prenant le crédit, on épargne.
Non, mais je veux dire, le crédit, c'est de l'épargne. Hein, donc voilà, la comptabilité nationale.
J'ai acheté 500 000 euros, je pars au bout de 10 ans. Oui. J'ai amorti 200 000 euros de capital ou 150 000 euros.
Donc vous avez acheté, le bien valait 500 000 euros.
Je l'ai acheté 250.
Vous l'avez acheté 250 000. Dans 10 ans, je vais peut-être vous le racheter 230 000, mais vous ne devez plus à la banque que 150 000 euros. Donc la différence, c'est pour vous. Et si le prix du bien a augmenté, vous avez, on va vous donner une partie de la plus-value. C'est d'accord. Exactement comme...
Et si ça baisse ?
On vous donne 50% de la hausse de ce que vous avez acheté. Si ça baisse, c'est pas pour vous. C'est vous ne le supportez pas. C'est le risque de la foncière.
Et le suivant, il achète quoi ?
Le suivant, si je vous le rachète, j'ai le choix soit de le remettre en vente dans le même système à quelqu'un d'autre, sur la base du nouveau prix, qui vaudra 600 000 ce jour-là ou 400 000. Ça, c'est le marché qui le dira. Mais je peux aussi le vendre à quelqu'un qui a envie de l'acheter.
Une question, le promoteur, lui, il touche bien les 500 000 euros du produit de l'appartement.
Tout à fait.
Donc, qui prend le risque ?
Eh bien, des foncières. Le gros problème en France, c'est que nous n'avons pas de foncière de logement.
Et ça n'équivaut pas à une forme d'indivision ?
Non, ce n'est pas de l'indivision. C'est un bail emphytéotique, Le problème avec les professionnels que vous êtes, c'est que vous avez des références.
Eh oui.
Et donc, vous pensez toujours par rapport à ce que vous connaissez. Mais parce que vous ne connaissez pas ce système-là, qui est pourtant multiséculaire, qui est un droit de propriété temporaire. Donc, en fait, on est éligible maintenant depuis le 1er avril au PTZ, donc au prêt à taux zéro pour les primo-accédants.
Pour le neuf.
Ben oui.
Sur du neuf, oui, puisqu'on vend du neuf. On vend du neuf, mais on peut aussi le faire sur la vente aux locataires HLM, hein, ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc la personne, elle paye la moitié. Enfin, ça va lui coûter moins cher qu'un loyer.
On va développer. Xavier Lépine, merci pour cette précision. On va le développer, je voulais bien, mais j'aimerais avoir vos commentaires. Comment vous trouvez cette idée, Bruno Bonnier-Vinard ?
Moi, je voudrais comprendre si c'est pour une occupation en résidence principale ou si ça peut être pour des investisseurs aussi.
C'est fondamentalement pour une résidence principale.
D'accord.
Nous, ce que l'on souhaite, on a un objectif très, très marqué. On s'est mis société à mission, c'est pas par hasard. On pense qu'en fait, le besoin d'être propriétaire et de loger des familles, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas habiter, vous ne pouvez pas construire quelque chose.
Vous êtes très logement, le cœur de votre...
C'est une sorte de leasing...
En fait, c'est l'adaptation à l'immobilier, ce que vous pratiquez aujourd'hui sur votre voiture.
Voilà.
La seule différence, et elle est de taille, c'est qu'une voiture, tout ce que vous payez, c'est perdu. Mm-hmm. Et puis au bout de 10 ans, votre bagnole, elle ne vaut plus un rond. Alors que là, vous remboursez un crédit. Vous n'achetez pas votre leasing à crédit, hein, vous empruntez pas de l'argent, vous payez tous les mois. Tandis que là, vous remboursez un crédit, donc vous épargnez. Et vous avez une partie de la plus-value. Donc c'est juste le fait qu'on a la chance en France d'avoir le bail emphytéotique, ce qui existe en Angleterre, ce qui existe en Allemagne, ce qui existe dans plein de pays.
Oui, c'est le principe...
De leasehold.
Oui, mais c'est aussi le principe de la propriété foncière, pardonnez-moi, mais quand on voit aujourd'hui dans le cadastre, je prends la région londonienne, on voit deux propriétaires, hein, le duc d'York et le duc de Westminster. Absolument. Donc c'est intéressant. Est-ce que c'est pas le cas, on est d'accord ?
Non, c'est pas le cas, parce qu'en plus on donne la possibilité à la personne, supposons que Virginie achète dans ces conditions-là, ou Isabelle, eh bien à tout moment elle peut décider... Si sa situation financière s'améliore, enfin augmente, ou elle a hérité, ou elle gagne plus, etc., elle peut à tout moment venir nous voir et acheter définitivement la propriété. La réalité, on le sait tous, c'est que les gens ils restent 8 à 10 ans dans le même logement. Pourquoi
vous voulez dire qu'on peut sortir du bail emphytéotique par anticipation, rachetant à la foncière, et on se retrouve dans la situation
Vous pouvez acheter en deux temps. Est-ce que vous connaissez un système où vous pouvez acheter moitié aujourd'hui et l'autre moitié dans 8 ans ?
Commentaire, ça vous inspire, Virginie ?
Oui, alors le système, il est un peu complexe à comprendre, effectivement, mais ça peut s'entendre, puisqu'on voit émerger toutes ces formes, BRS, etc., de propriété qui n'est pas tout à fait acquise de manière classique ou à un rythme un peu différent ou avec un différé. Il y a ça. Et simplement, il va falloir que les maires, c'est mon... j'espère qu'ils vont être conciliants, il va falloir que les maires octroient des permis de construire puisqu'il s'agit de logements neufs. Et donc, il faut qu'il y ait de plus en plus...
Attention
de...
à votre micro qui frotte légèrement. Voilà, si on peut le surélever un tout petit peu. Voilà.
C'est pardon. Il faut juste que les maires donc, délivrent des permis pour qu'on puisse construire les logements, pour que ces nouveaux acquéreurs puissent les acheter. Après, effectivement, s'il y a une déclinaison de l'ancien, ça peut s'entendre. Et par rapport à l'Angleterre, ou enfin par rapport à Londres, la petite différence quand même, c'est que on n'arrive pas du tout au même moment historique. Et je doute, je vous le souhaite, mais je doute que vous devriez, que vous deveniez propriétaire de la moitié de Paris.
Ben écoutez,
ce qui n'est pas votre vocation d'ailleurs.
C'est pas ma vocation. Maintenant, oui. c'était ce que décrivait Jules Verne dans son livre Paris en 1960, parce que c'était ce qu'il avait déjà inventé comme système.
C'est
pour,
pas,
pour
c'est
les
pas
Parisiens.
D'autres réactions.
Maintenant,
oui,
pour répondre juste, excusez-moi, je réponds. Ben, les maires, ils adorent.
Ah mais j'espère. Des élections, j'espère qu'ils vont les signer.
Attendez, on a répondu à beaucoup d'appels d'offres, d'appels à manifestation d'intérêt et d'appels d'offres. Les maires, ils veulent quoi? Ils veulent une gentrification douce. Ils veulent pas d'un côté des propriétaires.
Rappelez à nos auditeurs ce que c'est que la gentrification pour qu'on comprenne bien le terme.
Bien, c'est le fait que quand on s'installe dans une région, quand on construit, bah, comme ça coûte plus cher, vous avez une population plus riche qui vient et vous avez une population locale qui amener un petit peu à disparaître. Et ça,
l'idée, c'est la mixité.
La mixité sociale, c'est quand même... Alors, les maires détestent les ventes en bloc faites par les promoteurs pour louer. Pourquoi ? Parce que bah, les locataires, c'est une population qui vient profiter des aménités de la municipalité et qui ne vote pas nécessairement sur place. À partir du moment où les gens sont propriétaires, le rapport est complètement différent.
Propriétaire-occupant.
Oui.
Oui, non, mais c'est important, parce que dans l'allégorie, effectivement, c'est plus facile de loger ses électeurs.
Si vous voulez, c'est pas une réponse unique. Vous avez le logement social, vous avez le logement BRS, pour l'acquisition, mais qui ne peut jamais être définitif. Vous avez le logement intermédiaire, vous avez le PSLA, vous avez ensuite des systèmes comme Néoproprio, et puis ensuite, vous avez la pleine propriété. Nous adressons, en fait, à toute cette partie de la population qui est oubliée depuis 30 ans, 40 ans, des politiques publiques. Politiques publiques, elles ont cherché depuis 40 ans à traiter le problème du logement social, avec plus ou moins de difficultés, avec des quotas, avec des situations que vous avez évoquées les uns les autres qui sont manifestement pas satisfaisantes, et au détriment de qui ? De cette classe moyenne. Aujourd'hui, quand vous êtes un promoteur et que vous sortez un programme neuf, vous regardez le pouvoir d'achat dans la municipalité en question, ça concerne qui ? Le 9e et le 10e décile de la population. Mmh. C'est une réponse, ça ?
Commentaire.
Moi, j'ai une question. Oui. Comment, du coup, vous vous rémunérez ? C'est quoi votre business model ?
Alors, c'est très simple. On organise l'ensemble. On se rémunère par une commission. En fait, on simplifie la vie du promoteur, puisque lui n'a plus à s'occuper de la vente. Et donc, on prend une partie de la rémunération qu'il payait avant à quelqu'un pour vendre. Puisque généralement, ce sont des réseaux de distribution qui vendent.
Donc le promoteur verse une commission.
Voilà.
Il vous fait un prix réduit, j'imagine, parce que vous êtes sûr de lui vendre son... Enfin, vous lui achetez son bien, donc il y a une histoire de lot aussi.
Oui. Alors, l'idéal pour nous, et c'est ce que l'on essaye de plus en plus de faire, c'est en fait que... C'est comme quand vous venez dans une concession de voiture, vous ne demandez pas si la voiture bleue, elle est en pleine propriété, et si la voiture rouge, elle est en leasing. Donc c'est au client finalement de se déterminer. Ce qu'aime beaucoup le promoteur dans notre système, c'est qu'en fait ça lui permet de communiquer de façon beaucoup plus large. Au lieu de toucher le 9e et le 10e décile de la population, bah là il touche du 5e
au 10e. Ça lui permet d'écouler ses stocks surtout.
Oui, d'écouler ses stocks et de faire venir beaucoup plus de monde. Il y a des gens qui diront non, moi je ne rentre pas dans votre système, ça ne m'intéresse pas. Bon, finalement on avait besoin d'un 3 pièces et on va prendre un 2 pièces. Plus on avait d'autres, au contraire, qui disent ben nous, on avait vraiment besoin d'un 3 pièces. Ben, on est remariés, on a un enfant chacun. Si on ne veut pas divorcer dans les 3 ans, il vaut peut-être mieux qu'on ait un peu de place. Et ben, finalement, ce système-là leur permet de le faire. Et les primo-accédants, ben, là, eux, ils rêvaient de quelque chose qui était inaccessible.
Donc, commission, ça, c'est une part de votre rémunération.
C'est l'essentiel de notre rémunération. Et si ensuite le fonds d'investissement nous demande de gérer. Dans le temps, bah, on prend une petite commission de gestion, mais c'est très faible parce qu'en fait, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de gestion puisqu'il n'y a pas de locataire.
Eh oui, bien sûr.
Donc il n'y a pas de gestion locative, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas... Vous avez, il n'y a pas l'usus contre infructus X ou Y et les emmerdes du russe au carré.
Qui paye la taxe foncière ?
C'est l'acquéreur. Il est propriétaire.
Il paye, donc fiscalement.
Donc il a les deux ans d'exonération de.
Quand elle existe.
Okay, quand elle existe, et puis ensuite il paye sa taxe.
Eric, vous voulez intervenir ?
Oui, je voulais intervenir parce que je vous ai interviewé il y a deux ans de ça, un peu plus de deux ans de ça, de début 2023, sur ce sujet-là. Vous veniez de lancer la société, c'était pour Imoic. Au passage, le podcast est toujours en ligne, vous pouvez l'écouter. D'autant que vous nous aviez fait vous êtes un vrai spécialiste de l'histoire du logement. Vous m'aviez fait sur ce podcast un vrai historique pour en arriver justement à cette idée que vous avez eue et qui est brillante, effectivement. Mais c'était il y a deux ans, donc je disais l'interview en 2023, à un moment où le marché du neuf n'était pas au mieux de sa forme, mais par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, on va dire qu'il était beaucoup mieux. Donc, ce que j'ai envie de vous demander, c'est où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça, sachant que vous êtes basé quand même sur le neuf, même si vous nous disiez déjà à l'époque que vous alliez aller vers l'ancien, mais ce n'était pas encore le cas. Est-ce que le marché du neuf n'a pas freiné le développement de votre société ?
Vous savez, quand on lance un nouveau modèle, on voit bien, c'est compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup d'agréments, obtenir le prêt à taux zéro. Tous les gouvernements étaient d'accord, sauf qu'il n'y avait plus personne pour signer. Donc, ça a pris quand même plus d'un an.
Et puis, il vous faut le fonds qui met les fonds.
Il faut convaincre des investisseurs.
Parce que dans ce que vous dites, il y a quand même un aspect qu'on a oublié, c'est que l'autre partie, c'est quand même des fonds qui le mettent.
Oui, bien sûr.
Quels fonds ? Quel genre de...
Bien, pour l'instant, on commence avec certains promoteurs qui disent, nous, finalement, ça nous... Pourquoi pas ? Vous savez, on voit bien que, de toute façon, il faut qu'on fasse évoluer notre business model. La promotion pour vendre. Vous savez, ce métier de promoteur, il a été créé en 1967 par la loi sur la vente en l'état futur d'achèvement. C'est un système qui est merveilleux, mais qui est typiquement français. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. Dans les autres pays, ils sont constructeurs et exploitants. Ils font du build to rent, du build to lease, etc. Donc ça commence à rentrer. Et puis il y a ceux qui ont un intérêt objectif à détenir du logement. Donc ça peut être... effectivement des partenaires.
Moi j'ai juste une question. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous disparaissez ?
Le droit, c'est un acte notarié. Si on disparaît, ça ne change rien pour la personne.
Et donc ça veut dire qu'au bout de 25 ans, si vous n'êtes plus là, à qui appartient le fonds n'est plus là derrière ?
Mais si le fonds n'est plus là, les actes juridiques qui sont toujours là, donc ça appartient exactement de la même manière. Ce n'est pas des avoirs sans maître. Hein. Si vous me louez un appartement à moi et que je disparais, il existe toujours. Mais non, ça, c'est pas, c'est un vrai faux sujet, ça.
Au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe si le bail...
Alors, il existe des gens qui restent 25 ans dans le même logement.
Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le même logement, moi.
Mais vous l'avez acheté, le vôtre.
Oui. Cette statistique de dire les gens restent 9-10 ans, je ne comprends pas d'où elle vient, parce que...
Elle vient de la chambre des notaires, d'abord.
Oui, puisque... mais c'est le parc mutable qui reste 9-10 ans. Mais il y a tout un tas de parcs qui ne mutent jamais.
Alors, plusieurs choses. Je ne dis pas que... Je ne prétends pas que notre réponse...
Peu importe, on ne va pas discuter là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 25 ans ?
Au bout de 25 ans, sauf meilleur accord avec le bailleur, qui n'est pas nous, mais qui est la foncière, la personne doit partir.
D'accord.
Donc elle n'est plus titrée, elle n'a plus de titre.
Vous voulez dire qu'au bout de 5 ans, c'est fini ?
C'est fini, mais ce n'est pas fini dans n'importe quelle circonstance. À ce moment-là, si la personne qui avait payé ses 250 000 euros à crédit, elle a complètement remboursé son crédit, au bout de 25 ans, son crédit il est fini.
Okay.
Donc on lui donne 125 000 euros au moment où elle part, plus la moitié de la hausse.
La moitié de la plus-value.
Oui.
S'il y a plus
exactement, s'il y a plus-value
si y a plus
sur
plus...
25 ans.
Et pourquoi 125 000 et pas 250 ?
Parce qu'elle a utilisé ce bien pendant 25 ans.
Mm.
Donc la valeur de son bail diminue, mais diminue. Elle a remboursé son crédit. Elle part avec 125 000 euros plus la moitié de la hausse. Donc si dans 25 ans l'immobilier a augmenté de 50%, elle va partir avec 200 000 euros dans la poche. Elle aura payé beaucoup, 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 beaucoup moins cher qu'un loyer, parce que le loyer, il aura été indexé pendant la période. Au départ, il aura payé la même chose, Sauf que là, 25 ans plus tard, son loyer, il aura doublé.
Du coup, moi, je comprends encore moins comment vous vous rémunérez.
C'est pas moi, là, c'est des foncières.
Non, parce que si vous, en plus, vous payez la moitié du capital qui a été versé à la personne, vous, vous perdez de l'argent.
Non.
Avec ce schéma.
Non. Là, il faudrait reprendre avec des schémas pour vous expliquer comment ça se passe.
La foncière garde le
logement. En fait, c'est la foncière qui est propriétaire.
Oui.
Non, mais c'est un logement que vous avez acheté au rabais, parce que quand vous dites le logement,
non, ça change
il vaut
rien,
500
le fait.
000 euros. En fait, vous l'achetez réellement 500 000 euros ou vous l'achetez moins cher auprès du promoteur?
Je peux l'acheter. On va supposer que j'achète 500 000. Ouais. J'achèterai probablement moins cher, mais supposons. Je revends immédiatement à vous. Vous me payez 250 000. Donc je n'ai investi que 250 000.
Ouais.
Dans 25 ans, le logement vaut peut-être 600 000. Ouais. 700 000.
Si les prix de l'immobilier montent, si ça se casse la figure.
Est-ce que vous imaginez sérieusement, comme diraient les adolescents, sérieusement?
C'est ce qui s'est passé là dernièrement, c'est pour ça que.
Dernièrement, sur 25 ans, c'est arrivé deux fois dans l'histoire de France. En 1432, avec
mais
la peste noire.
Mais là, ce qui s'est passé par exemple avec Nexity, c'est à cause des prix.
Attendez,
je prends l'exemple d'un promoteur.
Je prends l'exemple du prix long. Sur longue période. Les coûts de construction, c'est de la main-d'œuvre, des matériaux et des normes. Pourquoi est-ce que l'immobilier a autant augmenté depuis des décennies et des décennies? Parce que ces trois facteurs-là, ils n'ont aucun composant de technologie. Parce qu'il n'y a pas de mondialisation sur l'immobilier. C'est une activité locale. C'est malheureusement condamné toujours à l'inflation des coûts de construction, des matières premières, du travail, c'est toujours supérieur. C'est en moyenne sur les...
Mais il y a quand même eu des belles
prix. Non, mais la hausse des prix des logements, elle n'est pas liée à la hausse des coûts de construction. Elle est liée au foncier et à la spéculation qu'il y a sur le foncier.
C'est ça,
la spéculation, est-ce que vous pensez également qu'il est possible qu'avec les lois sur les loisannes, etc., de voir durablement, dès qu'il y a des périodes où les prix baissent de 10%, c'est pas un sujet. Ça, heureusement, d'ailleurs, il faut de la respiration.
C'est plus de 10% dans certaines villes.
Oui, mais je n'ai pas dit qu'on le faisait dans toutes les villes, on le fait dans les zones tendues.
Ok.
Donc là...
Donc vous misez sur l'augmentation du prix.
Vous êtes d'accord que la hausse des prix des logements, elle n'est pas liée à la hausse des coûts de la construction. Elle est liée au foncier qui augmente et parce que beaucoup de gens veulent être là en même temps, au même moment.
Oui, bien sûr. Mais il y a deux composantes. Vous avez... Le coût de construction, c'est grosso modo autour de 2000 euros entre 1300 et 2000 euros du mètre carré.
Moi, j'ai regardé une courbe qui compare l'évolution du coût de la construction, l'évolution de l'inflation, etc., depuis 1960, donc depuis longtemps. En fait, le coût de la construction, il a augmenté comme l'inflation. C'est pas le coût de construction qui fait le prix du logement, d'autant plus sur le marché de l'ancien.
Alors, je suis désolé de vous contredire. Mais
je vous la montrerai cette courbe.
Je suis très preneur. Attendez, excusez-moi. L'indice du coût de construction, il existe depuis 1953. L'indice de l'INSEE des prix de la consommation, il existe depuis avant. De 1953 à 1985, ils étaient strictement identiques. Et depuis 1985, l'indice du coût de construction augmente de 1 à 2% de plus que celui général des prix.
Je confirme.
C'est un fait.
Je confirme.
Là, je suis désolé, madame, mais...
Je confirme. Non, c'est factuel.
C'est une courbe de Frigide.
On a travaillé sur le dossier.
La courbe de Frigide, c'est pas ça.
Non. Il y a plusieurs courbes de Frigide.
Isabelle, il y a quand même une certaine spéculation autour du
foncier. Mais oui, le marché de l'ancien, il n'est pas lié au coût de la construction.
Alors, attendez.
Non, mais on compare pas les prix de l'ancien et les coûts de construction.
Si vous êtes tous persuadés que les prix vont baisser... Il faut surtout que personne n'achète. Moi, je me mets dans une situation où quel serait l'intérêt d'un investisseur ou d'un particulier d'acheter un bien s'il pense qu'il va baisser?
Non, mais la plus-value, elle ne vient pas du coût de la construction.
La plus-value, elle vient d'une situation de l'offre et de la demande.
C'est ça.
Et l'offre et la demande, elle est contrainte.
C'est pas ce qu'a dit Xavier Lépine. Il n'a pas dit que c'était le facteur principal.
Le prix du logement, c'est...
Non.
Le prix du logement, il y a une partie de foncier, il y a une partie de bâti.
Xavier Lépine, vous étiez patron de la Française, donc les chiffres, vous les connaissez aussi bien que moi. Je peux faire une comparaison depuis 1965. Ça tombe bien, c'est une bonne année, 1965. Je suis né en 65. Si, Voilà.
C'est un grand cru.
Et donc on a compris que j'allais faire 60 ans. Mais l'idée, elle est simple, c'est qu'on a comparé les classes d'actifs, mais ça vous l'aviez déjà fait à plusieurs reprises, par rapport au choix d'investissement immobilier. Il n'y a juste pas photo entre le monétaire, les métaux précieux, l'or, l'immobilier reste la classe d'actifs. Toute classe d'actifs confondue, mobilier ou immobilier, la plus, comment dirais-je,
on peut, résiliente. Comment,
voilà, résiliente. Voilà.
Bah parce qu'on peut télétravailler, mais on peut pas télédormir.
Les financiers que vous étiez d'ailleurs quand vous étiez à la tête de la Française, bah, c'est normal que les fortunes, le développement de ces grosses foncières se sont constituées parce que forcément, vous êtes d'accord, c'est la classe d'actifs la plus résiliente. On fait de la plus-value. Ceux qui ont eu la chance d'acheter à Paris, quand j'ai débarqué à Paris à 37 piges, je peux vous dire que c'est bon taux. Hein.
Je voudrais juste
ensuite Bruno Guibray, oui,
pardon, pour compléter ce que disait Isabelle tout à l'heure, parce que j'ai loupé un truc, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir la réponse. Au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de partir, mais si vous avez envie de rester.
Oui. Alors ça, c'est une bonne question. Oui, mais il faut qu'il rachète.
Bah, il faut racheter justement. Il faut rajouter les 250 000 du départ.
Non, il faut rajouter on réévalue le prix du bien à ce moment-là, et on vous donne les 200 000 euros et vous complétez par rapport au prix du bien ce jour-là.
Ah oui, on achète. Alors si on veut rester, on achète une valeur future. Excuse-moi, Isabelle. On rachète donc la valeur future.
Oui.
Non, que je comprenne bien.
Pour partie.
Oui, si je. Oui.
Pour partie. Oui, vous avez payé une partie.
Pour la moitié. Non, pour la moitié.
Bah, pour partie.
Pour partie. Voilà. Oui.
Oui, si on vous donne la possibilité soit de partir, soit de rester. Si vous voulez rester, bah, faut racheter ce que vous n'avez pas. C'est clair. Si vous voulez partir, bah, on vous donne qu'on vous doit.
Isabelle, tu voulais intervenir.
Non, moi je partage tout à fait votre constat que l'accession à la propriété est en panne, elle régresse parce qu'on était arrivé à 57,8 de taux de propriétaires, on est à 57 et elle régresse particulièrement dans les classes modestes et moyennes. Avant, il y avait 30 à 35% des gens du premier quartile de revenus qui étaient propriétaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, et comme vous dites, ça atteint aussi la classe moyenne, donc les deux et troisième quartiles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il y a en fait à bas bruit une concentration de la propriété entre les mains des plus aisés. Le Airbnb, c'en est un des phénomènes.
C'est vrai que tu le dis à chaque. Non, mais c'est un débat.
Ça se voit pas beaucoup parce que c'est un mouvement lent, etc. Mais on voit que le taux d'accession à la propriété régresse. Pourquoi? Parce que les prix sont trop chers. Donc je salue l'initiative.
Mais c'est pas les prix régression... trop chers, c'est les salaires qui n'augmentent pas assez.
Absolument.
Il faut voir ça aussi.
Vous avez parfaitement raison.
Entre la régression de l'accession à la propriété, ça n'explique pas le fait que des personnes qui seraient mieux loties en profitent effectivement pour être de multipropriétaires.
Parce qu'il y a une évolution différenciée des revenus.
Parce qu'il y a une espèce de courant.
Des corrélations.
Il y a quand même un courant assez délétère que je trouve, mais c'est mon point de vue encore une fois, et c'est bien d'en débattre, qui consiste à dire que finalement la propriété immobilière se concentre entre très peu de mains et que le temps passant, ça s'accroît de plus en plus.
Ce sont les stades de l'INSEE, il y a deux ans cette première analyse.
Mais quand tu vois les rapports, tu te rends compte que c'est pas des propriétaires qui se retrouvent avec des dizaines d'appartements.
Si. Il faut prendre cette étude de l'INSEE qui date d'il y a deux ans où on voyait cette concentration du parc locatif aux mains des multipropriétaires. Et la distorsion, elle était assez terrible.
Mais en proportion, ils représentent quoi ces gens-là?
Mais c'était pas 80-20, hein, c'était 5-95.
Dans les grandes villes, ils représentent 50 à 60% des biens locatifs.
Vous êtes d'accord, Xavier Lépine? Ben oui, forcément.
La difficulté que nous avons en France, c'est l'absence de foncières de logement par les institutionnels.
C'est vrai.
En fait, on a incité les particuliers, on leur a dit... On n'a pas de fonds de pension, c'est un thème récurrent puisqu'on a choisi la répartition. Et à partir de ce moment-là, on les a convaincus que leur fonds de pension serait le logement. Bon, donc ils ont tous voulu être propriétaires. Et quand ils étaient propriétaires, ils ont dit « on ne va jamais mettre d'argent en bourse, finalement. »
C'est vrai.
Donc vous vous retrouvez, vous savez, on peut se plaindre de tous les côtés. Vous prenez
c'est
le CAC 40.
C'est ce que disait Emmanuel Macron en 2017 en disant voilà,
oui,
il faisait un peu ce
non, mais
hein,
le CAC 40 est détenu à plus de 50% par des capitaux étrangers.
Ouais.
Bon,
c'est y compris que c'est... les foncières de bureaux, je vous signale.
Oui, mais déjà l'outil, on va dire directement
60%.
Productif, plus de 50%. Ce qui veut dire que les centres de décision ne sont pas ici. Vous avez ensuite 21% détenus par 4 familles. Et les Français disent, bah oui, mais c'est bizarre, moi je...
4 familles, ah oui, oui. Alors, Arnaud, bah, Pinault.
Oui, enfin...
Non, mais voilà, d'accord.
Ce que je veux dire par là, c'est que on peut s'en plaindre, mais personne n'a empêché les particuliers de mettre leur argent en bourse plutôt que de le mettre dans un logement qu'ils vont louer.
Oui, oui, c'est clair.
C'est pas... Il y a eu cette tendance-là. Nous, ce que l'on cherche à faire à notre niveau, c'est de dire, on veut des propriétaires occupants. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez effectivement dans le parc locatif privé 98% de probabilité de tomber sur un propriétaire privé, puisque les institutionnels n'en ont pas. Ce qui est une aberration économique, sociale, qui est extrêmement lourde. Donc moi, ce que l'on cherche à faire, c'est redonner un parcours résidentiel sain, qui est un parcours temporaire, hein, qui est de dire la marche qui vous manque, celle que vous ne pouvez pas atteindre, c'est de passer ce premier stade.
On a bien compris. Bruno Meunier-Bénard voulait intervenir.
Oui, il y a une info manquante dans votre exposé. C'est, est-ce que, on a compris la singularité du montage financier, du mode d'acquisition, mais est-ce que vous proposez des logements neufs, classiques, au niveau du volume de mètres carrés
En pleine propriété,
est-ce que vous disruptez le modèle d'acquisition, mais est-ce que vous disruptez aussi le modèle du neuf aujourd'hui, qui souffre, il faut quand même le dire, d'une crise de la demande.
Okay. Il nous reste 3 minutes.
C'est une crise de la demande parce que, effectivement, elle n'est pas accessible. Alors, la réponse des promoteurs aujourd'hui, c'est la shrinkflation. C'est, vous savez que. Shrinkflation. C'est-à-dire shrink.
Des trucs petits,
c'est-à-dire le paquet de cornflakes dont on réduit la taille et dont on améliore le packaging. Et au lieu d'avoir 100 grammes, vous n'avez plus que 80 grammes et vous payez plus cher. Bah là, c'est ce que font aujourd'hui les promoteurs en disant, je vais vous faire des logements de... Allez, vous n'avez pas besoin de cuisine. Bon, après, vous n'avez pas besoin... puis une salle
pas bonne d'entrée. Pour faire
tout. Et ça coûte plus cher.
Bah, ça devient abordable, parce que si vous supprimez tout, effectivement... bah, moi, ce n'est pas ma conception.
Mais moi, j'ai une idée, c'est conception, la tente dans le jardin ou
Non, moi, je reviens toujours à la même chose.
Ou le container réaménagé.
Ça vous permet de vous loger. Vous n'allez pas construire une famille là-dedans.
Ah, mais je suis absolument d'accord avec vous.
C'est invivable, ces appartements.
Invivable. Je suis absolument d'accord. Il faut qu'on arrête de nous bassiner avec cette restriction de l'espace qui obstrue notre capacité créative. On l'a vu avec le Covid. Hein. Ça a été un effet. Ça peut avoir un effet très néfaste, même sur la santé.
Il n'y a plus d'entrée maintenant.
Oui, non, mais c'est pour ça que vous faisiez référence tout à l'heure.
Oui, mais les tenants du ZAN vont te dire que la densité est heureuse.
Ouais, oui, oui. Non, mais j'aime beaucoup. Oui, tu as raison. Non, mais tu as raison parce que j'aime beaucoup quand ils font ce genre de déclaration de densité heureuse.
Oui, moi je demande toujours.
Ceux qui disent ça en général, ils vivent dans des grands appartements.
À chaque fois, je
le. Il nous reste. On va devoir conclure. On a déjà bien dépassé le temps. Extrêmement intéressant. Votre dispositif. Moi, je voudrais vous dire une chose, si vous permettez. Ce que vous avez fait, c'est remarquable. Voilà. Je vous le dis. On s'est déjà accroché, vous et moi, intellectuellement sur des sujets. Hein. D'ailleurs, on fait partie, vous et moi, d'un collectif avec des députés sur le vieillissement. Mais ce que vous avez créé est parfaitement innovant. Parfaitement innovant. Et je vous avais posé la question et vous y avez répondu. Je vous avais dit, ouais, quand vous avez lancé votre offre, il va falloir trouver les financiers, les foncières, les fonds qui vont avec. Vous me dites, je suis dessus. Et là, vous avez été beaucoup plus loin, parce que non seulement vous avez fait la démonstration du modèle, on a vérifié, mais en plus, alors il faut dire que vous aviez aussi un track record de qui vous a permis d'aller plus facilement dans les couloirs du pouvoir, la possibilité d'être éligible au PTZ. Moi, je suis convaincu que bien communiquer avec l'alliance objective des promoteurs, moi ce que je vous souhaite, c'est que le promoteur le fasse, ça va forcément cartonner pour le bien, encore une fois j'insiste, pour le bien des propriétaires occupants qui aujourd'hui, même en location, quand ils arrivent et qu'ils voudraient acheter, ne peuvent pas le faire dans les zones tendues, parce que vous avez raison, vous n'allez que dans les zones tendues.
Oui.
Et je pense que votre modèle, il s'adapte très très bien là, sur les 17 métropoles françaises.
Et combien vous allez vendre le mètre carré à Tassin à 2001 alors ?
Bah, la moitié du prix.
C'est-à-dire ?
Je dois être dans les 3 000 euros.
C'est ça, à peu près.
Et donc,
Tassin, c'est chic. Attention, Tassin, la minute, c'est.
Non, Bérénice. Mais c'est 6 000 le prix normal. Ouais, et donc,
Bérénice, Tassin, c'est chic.
Oui.
C'est
oui.
Plutôt. Voilà, on n'est pas à Villeurbanne. Hein, on n'est pas.
On sait bien aussi Villeurbanne.
Ou à Bois-en-Velin.
On a quand même aussi en partenaire la Banque des Territoires. On a un soutien. Mmh.
Et vous n'avez pas eu de soucis pour vous financer, parce que c'est une très bonne opération. Aujourd'hui, avec le recul, si on va parler un peu business, combien vous êtes maintenant chez Néo pour Rio ?
Pardon ?
Combien vous êtes maintenant dans le groupe ?
8.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentable avec les opérations en cours ?
Non.
Et vous le serez dans combien de temps ?
J'espère d'ici un an et demi, deux ans.
Pas mal. Et vous avez été suivi ?
Oui.
Un immense merci.
Merci à vous.
D'avoir participé à cette émission. C'est pas simple, parce que vous avez répondu à beaucoup de questions. Extrêmement intéressant. On a été également passionnés. On vous souhaite longue vie et longue route sur ce projet Néo Proprio. Un immense merci également à notre Virginie Grelot. Vous revenez le mois prochain ?
J'essaie.
Ah là, voilà, Virginie Grelot, bien sûr, journaliste chez Challenge, avec Isabelle Ray-Lefebvre. Merci Isabelle d'être avec nous.
Merci.
C'est toujours un plaisir de débattre avec Isabelle. Vous êtes avec nous le mois prochain également, présidente de l'AJIBAT. D'ailleurs, on devrait tous être adhérents à l'AJIBAT. Vous êtes adhérent,
bah oui.
Bruno ?
Oui, mais j'ai pas payé ma cotisation.
Ah ouais, mais c'est pas bien ça. Il faut payer votre cotisation, etc.
J'ai honte.
Voilà.
Je t'envoie un.
Voilà, Eric, faut devenir adhérent à l'AJIBAT. Voilà. Eric Cala, journaliste à Immo Week. Merci Eric. Vous serez avec nous le mois prochain.
Écoutez, j'ai l'impression d'être revenu à la maison. Donc,
voilà, oui. Eh ben, ça nous fait plaisir. Notre rédactrice en chef, Bérénice de Villefloriau. Comment ça va, Bérénice?
Toujours au top.
Voilà, on va vous promettre pas mal de programmes. On est d'ailleurs sur la grille de Radio Immo en pleine réflexion pour vous présenter des programmes pour la rentrée. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs, puisqu'on est à la Foire de Paris, le 30 avril, avec nos amis de Sud Radio. On va pas vendre des brioches ou de l'andouillette, mais on va vendre de la rénovation énergétique. On va proposer aux gens de connaître mieux ce sujet. On sera d'ailleurs avec nos amis de l'ANA, qui sont juste en face de chez nous. Ce sera au hall 6, me semble-t-il, porte de Versailles. Voilà, merci à tous, j'ai oublié personne. Oui, nos amis à la technique, Jason Pinero, merci Jason pour la patience. Notre producteur qui est en vacances dans les Landes, Grégoire Daricot, qui a préparé l'émission. Merci aux équipes également de Néo Proprio. J'ai vu l'article que vous avez fait sur LinkedIn et qui a cartonné, bravo, très très bien. En tout cas, c'est un succès mérité. Le podcast, comme d'habitude, est à récupérer sur les plateformes qui vont bien. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, eh bien écoutez, prenez soin de vous.
Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.